Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
Vous êtes bien sur le 93.9 FM en direct sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alice à la présentation ce soir, bienvenue dans la matinale de ce mercredi 10 juin. Ça y est, enfin, Patrick Bruel a été mis en examen pour viol et placé en détention provisoire aujourd'hui. La demande a été faite par un juge d'instruction. Après les nombreuses accusations, les plaintes, deux nouvelles ont été déposées le 27 mai et le 3 juin dernier. Les articles à ce sujet et les trop nombreux, ne me laissez pas cette jeune fille seule avec Patrick, balancée par la prod des enfoirés. Je sais pas vous, mais moi j'en ai marre. Marre d'un monde où les agresseurs, les violeurs ont des années tranquilles avant d'être inquiétés et peut-être, seulement peut-être, condamnés. Marre d'un monde où les agresseurs, les violeurs sont finalement condamnés mais continuent de se produire sur scène ou de gagner Roland-Garros. Marre d'un monde où les victimes vivent dans la peur, le traumatisme et la culpabilité pendant des années avant d'avoir le courage de révéler des faits graves, parfois publiquement, et qu'en face, certaines réactions soient empreintes de doute, d'incompréhension et de remise en question de ces faits dénoncés. Marre d'un monde où la justice est en sous-effectif depuis des années et ne prend pas assez au sérieux ces affaires de violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. J'ai une pensée toute particulière pour Liana et ses proches, et que les nombreuses dénonciations ne changent pas grand-chose aux milliers de destins de femmes. Marre d'un monde où les politiques mettent soi-disant en grande cause du quinquennat les VSS, alors que des propres membres de ce gouvernement sont eux aussi accusés d'agressions sexuelles et ou de viols, et que le nombre de féminicides ne baisse pas année après année. Et même s'il est nécessaire et primordial de se battre, de manifester, d'essayer coûte que coûte de protéger ses droits, c'est usant. Usant de répéter inlassablement les mêmes choses, usant de voir défiler des noms d'enfants, d'adolescentes et de femmes sur les pancartes des féministes parce qu'elles n'ont pas été protégées. Ce que j'observe, c'est que quand les femmes ne sont pas alliées aux masculinistes qui crachent littéralement à la gueule leur venin contre la gente féminine, elles sont courageuses. Elles n'hésitent pas à dénoncer et à se battre contre le système patriarcal. Elles n'hésitent pas à s'affirmer et à clamer haut et fort qu'elles veulent vivre en communauté uniquement de femmes, qu'elles ne veulent pas endosser le rôle de mère, qu'elles sont asexuelles. Et même si tous les freins sont encore beaucoup trop nombreux pour vivre complètement sereinement dans ce monde de fous, les femmes s'expriment et personne ne pourra les faire taire. Au sommaire de cette matinale, nous accueillons Delphine Montagne, ingénieure d'études en sciences de l'information géographique à l'Université de Pau et wikimédienne en résidence à l'URFIST de Paris depuis le 2 mars dernier. Interviewée par Luna, nous découvrirons ce qu'est cette résidence et son but, et on s'intéressera plus globalement aux enjeux de la science ouverte et de l'open source. Le Zoom sera présenté par Ryan. Il reçoit Robin Sigaud en studio, vice-président du réseau et bénévolat du RECES, le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, qui organise un week-end étudiant pour une société écologique et solidaire les 13 et 14 juin prochains. Rachel sera avec nous pour sa chronique Actu. Au programme ce soir, la présomption d'innocence et les enjeux autour du principe de précaution et le double standard victime-accusé dans les affaires de VSS. Clotilde se chargera de nous énoncer les dernières actus nationales et international dans le traditionnel Flash Info, et Fabien nous présentera sa chronique libre. Enfin, je suis accompagnée de Joey ce soir à la réalisation. Merci à toi.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Bon, j'ai un peu dépassé, alors je te laisse la parole, Luna.
Merci Alice. Et bonsoir Delphine Montagne, merci de nous accorder cette interview. En fait, ce soir, vous n'êtes pas seule, vous êtes accompagnée d'une petite peluche. Est-ce que vous pouvez nous la décrire en deux mots, s'il vous plaît ?
Alors si vous connaissez bien le logo de Wikipédia, qui est donc un ensemble de pièces de puzzle en forme de globe, eh bien c'est une peluche qui reproduit à l'identique le fameux logo de Wikipédia. Elle a des grands yeux, des petites joues roses et elle est souriante. Et c'est pour les 25 ans de Wikipédia que la Fondation l'a proposée. Et comme je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps, je me suis dit que c'était le partenaire idéal pour cette interview.
Tout à fait, on reviendra sur les 25 ans dans quelques minutes. Mais avant, vous êtes ingénieur ingénieure, cartographe et géomaticienne de formation. Mais aujourd'hui, vous venez nous parler en qualité de Wikimédienne en résidence. Alors, on entend bien dans le nom que Wikimédienne, ça a quelque chose en lien avec Wikipédia. On entend aussi le mot médiateur comme médiateur culturel. Mais ça paraît bien mystérieux la première fois qu'on l'entend. Donc, pour bien comprendre de quoi il s'agit, peut-être qu'on peut rapidement revenir sur le fonctionnement de Wikipédia. C'est une écriture collaborative. Comment ça marche concrètement ?
Alors, Wikipédia, c'est une encyclopédie, il faut le dire. Et c'est pour ça qu'on retrouve pas mal de connaissances qui sont dessus. Et le fonctionnement, c'est en effet collaboratif. Tout le monde peut contribuer, tout le monde peut ajouter des informations sourcées sur l'encyclopédie pour apporter de la connaissance et du savoir.
Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus, à nous et à nos auditeuristes, en quoi consiste le travail de Wikimédienne en résidence, du coup, vu que tout le monde peut écrire sur Wikipédia, quelle est la spécificité ?
Alors, sur Wikipédia, il y a un certain nombre de règles. Il y a des principes fondateurs qui sont au nombre de 5. Donc, on a déjà dit le premier, c'est que c'est une encyclopédie. Et pour apprendre un petit peu les règles, pour apprendre à contribuer correctement, savoir comment ajouter des sources, généralement, on fait appel à quelqu'un qui connaît bien ce fonctionnement. Pour ma part, j'étais bénévole avant sur Wikipédia. Et c'est ce qu'on appelle, du coup, une Wikimédienne en résidence, parce que je suis en résidence dans une structure, et vous l'avez dit, c'est l'URFIS de Paris, donc unité régionale de formation à l'information scientifique et technique, donc c'est un organisme de formation dans les universités.
Et donc, devenir Wikimédien ou Wikimédienne, c'est pas du bénévolat, c'est un vrai contrat de travail. Donc, est-ce que n'importe qui peut devenir Wikimédien, ou est-ce que, comme vous, il faut être bénévole à Wikipédia avant ? Comment ça fonctionne ?
Il y a un peu tous les cas. Il faut savoir qu'il n'y a actuellement pas beaucoup de Wikimédiens et de Wikimédiennes en résidence en France. Actuellement, il y en a 3. Il y a mon collègue Gustave Daudard qui est au Muséum de Paris. Et il y a mon collègue Nicolas Vigneron qui est à la BU de Montpellier. Donc on est 3, même si au niveau international, il y a déjà eu plus de 300 résidences. Et c'est quelque chose qui est très bien installé, comme des pays comme le Royaume-Uni ou aux États-Unis. La plupart du temps, c'est plutôt dans des institutions culturelles. Le premier Wikimédia en résidence qui a eu en France était au château de Versailles. Mais ça se trouve également dans les universités.
Et comment on est embauché pour travailler à Wikipédia ? Est-ce qu'on va dans les locaux de Wikipédia pour passer un entretien d'embauche ? Comment ça se passe ?
Alors, il n'y a pas de structure de Wikipédia en tant que telle. Généralement, il y a la fondation qui s'occupe des serveurs et qui n'a pas de rôle éditorial. Et puis après, il y a des chapitres locaux qui se font le relais. Donc, par exemple, en France, c'est l'association Wikimédia France. Moi, j'ai passé un entretien avec l'URFIS qui m'a embauchée et j'ai présenté ce que je souhaitais faire durant cette année de résidence. Et puis ensuite, on a convenu que ça correspondait à leurs besoins et j'étais embauchée. C'est exactement comme un entretien normal d'embauche.
Et c'est un contrat qui dure combien de temps, du coup ?
Alors, la plupart des contrats de Wikimédia en résidence sont courts, à peu près de 1 à 3 mois. Moi, j'ai la chance d'avoir un contrat qui est beaucoup plus long, puisque je forme sur le long terme les chercheurs et les chercheuses, et c'est donc de 1 an et demi.
Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quel est votre quotidien en tant que Wikimédienne ?
Alors, mon rôle de Wikimédia en résidence, c'est beaucoup de formation, d'acculturation du monde de la recherche à tout ce qui est la science ouverte, donc la science qui peut être donc plus facilement accessible auprès du grand public, notamment via Wikipédia. Et ça va être aussi des actions, donc il y a Wikipédia qui est l'encyclopédie, mais il y a d'autres projets qui sont liés. Donc pour ajouter des photos, on va voir sur Commons. Pour pouvoir ajouter des textes libres de droit, nous on dit élevés dans le domaine public, ça va être Wikisource, et ainsi de suite. Et mon rôle, ça va être d'imaginer tout ce qu'il y a comme données, comme informations, comme articles scientifiques, pour voir où est-ce qu'on pourrait les injecter dans les différents projets Wikimédia, puisqu'on a parlé de Wikipédia. Moi, je suis une Wikimédienne en résidence, c'est-à-dire que je travaille sur plusieurs projets. C'est d'où cela devient le terme Wikimédia.
Ah, du coup, j'avais mal interprété, mais il y a quand même un rôle de médiateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les publics que visent vos formations ?
Alors moi, mon contrat, c'est former le monde de la recherche. C'est un financement du ministère et j'ai un peu carte blanche pour savoir quel est mes publics, sachant que le but, c'est de faire en sorte que ça se poursuive. Donc plutôt les chercheurs, les enseignants-chercheurs, évidemment tout le personnel de soutien à la recherche qui sont capitaux et puis évidemment les doctorants qui sont le futur de la recherche et ensuite, s'il y a des demandes, les étudiants et les élèves.
Et pourquoi vous avez voulu devenir Wikimédienne ?
Alors, De par ma formation, je suis dans le monde de la recherche depuis un certain nombre d'années et je suis bénévole dans le mouvement depuis maintenant plus de 5 ans. Et bah, quand le ministère a proposé ces contrats de Wikimédien et de Wikimédienne en résidence au sein des urfistes, pour moi, c'était lié à la fois à ce que je fais d'un point de vue bénévole, était à l'époque militant, et puis lié également à tout ce que je faisais dans mon domaine de mon métier de cartographe, comme vous l'avez dit. Donc pour moi, c'était juste l'évidence de candidater à cette résidence.
Wikipédia, vous l'avez dit, c'est une encyclopédie digitale. C'est l'encyclopédie digitale la plus consultée au monde. Pourtant, moi, quand j'étais petite, on m'a souvent dit qu'à l'école, il ne faut surtout pas faire confiance à Wikipédia, n'importe qui peut écrire n'importe quoi. À quel point c'est vrai aujourd'hui ?
Alors, la citation que vous avez dit, n'importe qui peut écrire n'importe quoi, elle vient de M. Assouline, hein, qui est donc un chercheur. En effet, on peut mettre n'importe quoi sur Wikipédia, ce que je ne conseille pas, parce que c'est des bénévoles qui font ensuite tout le travail de modération, mais ça peut être également enlevé encore plus vite. Et sur Wikipédia, le but, c'est d'apporter de la connaissance. Et au début, ça n'a pas toujours été bien perçu, et parfois à raison. Avant 2006, les sources n'étaient pas obligatoires sur Wikipédia, d'où cette mauvaise réputation qu'a pu avoir l'encyclopédie. Maintenant, on est le 9e site internet le plus consulté de France, d'après les enquêtes de Médiamétrie qui ont été publiées il y a 15 jours. Et on a plusieurs études qui ont été faites plutôt sur la Wikipédia en anglais, mais qui montrent que, de manière générale, Wikipédia est fiable, même si on se doute bien sur les 2,7 millions d'articles qu'il y a sur Wikipédia en français, il y en a certainement qui ont des petites faiblesses.
Rien qu'en français, du coup, on compte, d'après Wikipédia, plus de 2 763 225 articles qui sont écrits, coécrits par plus de 38 458 contributeurs francophones actifs. À la base, donc, c'est un projet auquel tout le monde peut participer et qui fonctionne bien. Quel est le sens d'avoir des Wikimédiens en plus des contributeuristes ? Est-ce qu'il y en a besoin pour perpétuer Wikipédia tel qu'il existe aujourd'hui ou est-ce que ça fonctionne bien tout seul ?
Alors, de manière générale, les personnes qui contribuent à Wikipédia sont juste animées par la volonté de partager leurs connaissances, partager le savoir. C'est aussi des personnes qui aiment bien écrire, qui sont souvent passionnées par leur sujet et qui trouvent là une manière de le partager. Il faut savoir qu'on n'a aucun article Wikipédia qui n'est pas vu. Tous les articles ont été au moins vus une fois et c'est aussi une certaine satisfaction pour les personnes de pouvoir le faire. On a parlé de l'encyclopédie Wikipédia, mais il y a aussi plein d'autres manières de partager la connaissance, que ce soit par des photos, en retranscrivant des textes sur Wikisource, en faisant des citations sur Wikquote, en ajoutant des mots dans le dictionnaire collaboratif du Wiktionnaire. Et donc tout le monde peut trouver sa place dans le mouvement Wikimédia et porter la connaissance.
Et donc, les premiers Wikimédiens sont apparus au début des années 2010, donc en Australie. Le troisième, vous l'avez dit, était au château de Versailles en France. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment ça s'est mis en place historiquement, cette création des Wikimédiens et Wikimédiennes dans le monde ?
C'était vraiment un besoin de la part des institutions qui voyaient qu'il y avait un vrai potentiel, mais comment le mettre en œuvre ? Quels étaient les outils, quelles étaient les pratiques, quelles étaient les bonnes pratiques à faire. Il y avait souvent un flottement. Et c'est pour ça que les Wikimédiens et les Wikimédiennes en résidence interviennent pour faciliter, avoir vraiment un rôle de facilitateur ou de facilitatrice. Et en gros, comme dit un de mes collègues qui est actuellement en résidence à Montpellier, Nicolas Vigneron, on met du wiki dans l'institution et on met l'institution dans le wiki. C'est vraiment les deux à la fois, de manière à ce que les savoirs soient plus disponibles pour tout le monde, plus facilement accessibles et plus faciles à découvrir.
Et comment expliquer qu'il n'y en ait que 3 en France, si ils ont une utilité une importance comme vous le décrivez?
Il faut des financements qui sont derrière. Il se trouve que là, on a l'énorme chance d'avoir un financement du ministère depuis maintenant 3 ans. Il y a eu plusieurs cycles de résidence. Il y en a eu un premier sur le côté ouest de la France, avec un urfiste de Rennes, de Bordeaux et de Toulouse. Ensuite, les urfistes du côté est de la France, avec Strasbourg, Nice et puis Lyon, où j'ai fait ma première résidence. Et donc là, maintenant, on change un petit peu de format avec Paris, avec le Nord, le Muséum de Paris avec, dans une institution, et puis le Sud de la France avec mon collègue à Montpellier.
Et donc, comme vous le dites, il y a les Wikimédiens en résidence travaillent dans des lieux culturels, par exemple,
ou
scientifiques. Mais on compte par exemple des lieux très connus comme le British Museum, le Palais de Versailles, qui ont déjà une page Wikipédia. Quel est l'intérêt pour ces lieux de travailler en lien avec Wikipédia sur leur collection ?
Déjà, d'un point de vue de visibilité, on l'a dit, c'est un site qui est très consulté. Donc, les personnes vont de manière générale en premier sur les moteurs de recherche, sur un des premiers sites qui sort, c'est-à-dire Wikipédia. Ensuite, parce qu'il y a plein de manières de mettre en valeur la connaissance et le château de Versailles ne savait peut-être pas forcément comment intégrer certaines photos, certaines images. Après, c'est aussi une méconnaissance de tout ce qu'on peut faire avec. Quand j'étais dans ma résidence à Lyon, j'ai travaillé avec un droguier, donc c'est l'ancien nom des médicaments, puisque ma résidence était axée sur la médecine. Et donc, on a mis en ligne des drogues, donc les anciens noms des médicaments, des photos de drogues. Il y en avait plus d'une centaine qui ont été ajoutées et on n'avait pas cette connaissance sur donc la médiathèque de Wikipédia Commons. Donc on part de pas grand-chose en termes de l'ancêtre des médicaments à une centaine de photos qui ont été massivement réutilisées, que ce soit sur Wikipédia en français ou dans d'autres langues.
On continue de décortiquer les enjeux de la science ouverte et de l'open source juste après la pause musicale. Ce soir dans vos oreilles, c'est Trap on Wikipédia de Shomo Yo. Yo-ho.
One second, let's see what the Isle of Man is.
I can't watch things that are fictional, 'cause I'll get trapped on Wikipedia. 6 hours learning about Coleman Trouble, yeah, I've been trapped on Wikipedia. Smartest man on the planet, but in a couple days I'll forget anyway and be back on Wikipedia. Damn it, damn it. I can't walk around and look at things at all, 'cause I'll be trapped on Wikipedia. 10 hours later and I'm on Charles de Gaulle, yeah, I've been trapped on Wikipedia.
C'est Trapped on Wikipédia de Shomo Yo-ho. Vous êtes à l'écoute de la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, on retrouve Delphine Montagne, Wikimédienne en résidence à l'URFIS de Paris, accompagnée de Luna pour la grande interview.
Et j'ai appris en préparant cette interview que Wikipédia avait aussi un slogan, le projet d'encyclopédie librement distribuable que chacun peut améliorer. Wikipédia est sous licence libre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça veut dire concrètement pour son contenu ?
Alors, on l'a dit, il y a 5 principes fondateurs de Wikipédia. Le premier, on l'a abordé, c'est que c'est une encyclopédie. Le deuxième, c'est qu'on essaie d'avoir un point de vue neutre. Et le troisième, vous venez de le dire, c'est qu'on est sous licence Creative Commons et sous une licence avec des sigles très barbares, CC BY SA. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Ça veut dire que les personnes qui acceptent, enfin, qui contribuent à Wikipédia, qui cliquent sur le bouton modifier leur texte, ils et elles acceptent qu'on puisse le modifier par la suite, qu'on puisse le copier, que ce soit sur une autre page Wikipédia, dans une traduction d'une autre langue ou bien pour un autre texte. Et puis également qu'on puisse le vendre, même si actuellement il n'y a pas de modèle commercial autour des textes de Wikipédia. On se demande bien pourquoi, n'est-ce pas ? Et par contre, il y a 2 conditions. La première, c'est de citer d'où est-ce que vient l'information pour éviter évidemment la prédation de contenu. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter qu'on puisse reprendre le texte, c'est-à-dire qu'on puisse, si on fait des modifications, qu'on puisse le copier, le modifier ou bien le vendre.
Et le sujet de l'open source, c'est un sujet qui est important pour vous dans votre travail, notamment parce que vous travaillez avec des scientifiques, des chercheurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi la recherche est particulièrement concernée par le sujet de l'open source ? Est-ce que c'est l'open source ?
Tout à fait. Alors là, nous, on est surtout sur le côté de la science ouverte pour la science. Donc, il faut comprendre un petit peu comment fonctionne la recherche. D'abord, il y a des études qui sont faites avec des données qui sont prises. Ensuite, il y a des analyses qui sont réalisées avec souvent des scripts. On fonctionne ensuite avec des logiciels qui font tourner ces différents scripts. Puis après, on rédige l'article, on le soumet à une revue. Et puis ensuite, là, il y a tout qui va être le post-traitement, peut-être des images qui vont être prises, et ainsi de suite. Et à chacune de ces étapes, il y a la possibilité de mettre en libre accès ce contenu. Tout ce qui va être les données, donc la data, on peut faire des jeux de données librement accessibles. Tout ce qui va être les photos qui ont été prises, on peut les mettre sur Commons, donc la médiathèque de Wikipédia. Le texte, ça va être donc les publications qui vont servir comme source pour Wikipédia. Et puis les logiciels, c'est aussi intéressant de voir un petit peu comment est-ce qu'ils fonctionnent pour pouvoir aller étudier les scripts et les algorithmes qu'il y a derrière. Et c'est cette transparence qui déjà permet à tout un chacun de pouvoir reproduire la recherche et puis également qui est un gage de qualité pour pouvoir vérifier que tout s'est bien passé correctement. Donc c'est ça, la science ouverte. Et du coup, évidemment, Wikipédia, qui fait partie de cet écosystème de la connaissance, est directement impliqué et directement intéressé par tout le contenu qui est mis en libre accès par le monde de la recherche et en premier les chercheurs et les chercheuses.
Je vous remercie. On peut rappeler un peu le fonctionnement aujourd'hui de la recherche, en fait, où on a une production de recherche en France qui est produite par des chercheurs qui sont employés par l'État, qui doivent ensuite soumettre leurs articles à des publications, qui doivent payer pour soumettre leurs articles souvent, et qui doivent ensuite encore payer pour pouvoir consulter les articles de la recherche. Donc aujourd'hui, l'open source, c'est vraiment un contre-pied du système principal pour les chercheurs.
Disons que l'État encourage le fait que les chercheurs et les chercheuses et le monde de la recherche en général soient publiés dans des revues qui ne demandent pas ces frais de publication, ou bien qu'ils mettent à disposition au bout de 6 mois pour le monde de la recherche en sciences dures, enfin dites dures, et 1 an pour les sciences humaines et sociales, leurs articles, donc la version auteur, c'est-à-dire sans la mise en page de la revue. Ce qui permet du coup de s'écarter des droits d'auteur et qui sont des droits de la revue. Donc c'est ça aussi qui est au cœur, c'est que la recherche, notamment qui est en majorité publique en France, qui est payée notamment par nos impôts, que les différentes personnes puissent aller récupérer le fruit de ce travail et y avoir accès. Donc bien sûr, il y a Wikipédia, mais il y a également les journalistes, les radios comme vous êtes. Et c'est donc assez important que ce soit beaucoup plus facilement accessible.
Et pour parler de l'avenir de Wikipédia, sur la page d'accueil de ce site, on peut lire que Wikipédia fournit tous ses contenus gratuitement, sans publicité et sans recourir à l'exploitation des données personnelles de ses utilisateurs. Ce sont des valeurs qui sont de plus en plus rares sur Internet. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir accès à un contenu de qualité sans payer, sans regarder de publicité. C'est un peu le concept de unshitification, qui est littéralement la merdification qu'a fait connaître Cory Doctorow et qui désigne un processus de dégradation de la qualité des plateformes numériques. Comment ça se fait que Wikipédia résiste encore et toujours à cette merdification de son site par rapport à d'autres plateformes qui ont sombré, entre guillemets ?
Alors, depuis le début, Wikipédia a été un acteur un petit peu à part, sachant que de par l'histoire de Wikipédia, au début, il n'était pas certain que l'encyclopédie soit gratuite. C'est petit à petit que ça s'est fait. Ça reste encore aujourd'hui, en effet, quelque chose qui est une anomalie du web ou bien une spécificité du web. Ça dépend des différentes personnes qui peuvent l'apprécier. Je pense qu'il y a toujours des personnes qui ont envie de contribuer de manière désintéressée, juste pour le plaisir de partager leurs connaissances. Il faut savoir aussi que les 5 principes fondateurs de Wikipédia permettent aussi ça, de pouvoir continuer de cette manière, même si la communauté se réinvente à chaque fois et... vous êtes bien entendu, vous auditeurs et auditrices, invités à cliquer sur le petit bouton modifier en haut à droite si vous voyez une coquille, à rajouter une information avec la source associée si vous voyez des choses qui sont manquantes, puisque Wikipédia n'attend que vous.
Et si justement je veux me former à une de vos formations, à avoir plus de connaissances sur le fonctionnement de Wikipédia, devenir bénévole plus investi, entre guillemets, est-ce qu'il y a des étapes à passer ou comment fonctionne la communauté des Wikimédiens.
Alors, si vous êtes dans le monde de la recherche, moi, dans le cadre de ma résidence, je propose un certain nombre de formations, que ce soit des webinaires, comme il y en a par exemple le 29 juin, je propose un webinaire pour découvrir les projets Wikimedia et le monde de la recherche, et tout est bien entendu gratuit. Soit ça va être avec des ateliers, je fais pas mal d'ateliers dans les laboratoires, on va s'appuyer sur les publications pour voir où est-ce qu'on peut les injecter ici et là dans les articles Wikipédia. Ça peut être aussi ce que j'appelle des projets embarqués, où on regarde un petit peu ce qu'il y a comme données, comme contenu qu'on pourrait mettre sur les projets Wikimedia. Et puis, si les personnes ont envie un petit peu de découvrir le monde Wikimedia d'un petit peu plus près, en juillet, la France accueille la plus grande rencontre internationale de Wikimédia et de Wikimédia du monde entier. Ça s'appelle la Wikimania. C'est à Paris et il y a un hackathon qui est en amont, qui est ouvert à tout le monde, avec 10 défis qui sont assez intéressant à relever. Donc si vous avez des compétences en documentation, en hacking, en gestion de projet, en tout ce qui va être aussi la traduction, voilà, ben, on vous attend. Et c'est aussi une manière de découvrir le monde wiki et de travailler avec des personnes du monde entier qui sont là pour améliorer l'encyclopédie et ses projets associés.
Et justement, cet événement qui est organisé pour la première fois à Paris, est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'autres événements qui auront lieu Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire si on n'y connaît rien en hacking, en sciences? Est-ce qu'on peut juste s'y balader et découvrir Wikipédia?
Alors, la Wikimania, il y a plus de 2000 personnes qui sont attendues. Donc, les inscriptions ne sont plus disponibles qu'en ligne, mais c'est tout à fait possible. Et il faut savoir que c'est traduit en simultané dans 5 langues, français, anglais, espagnol, arabe, et il m'en manque une. Je la retrouverai. Donc c'est possible de le faire en ligne. Et par contre, bah, si vous souhaitez avoir un petit aperçu de ce que c'est la Wikimania, bah, de venir à ces préconférences comme le fameux hackathon.
Et je pense que je vais finir sur une dernière anecdote que vous m'avez donnée. Je ne savais pas du tout que Wikipédia avait un logo sonore. Voilà, vous venez de l'entendre dans vos oreilles ébahies. Est-ce qu'il y a d'autres petits secrets cachés comme ça de Wikipédia qu'on ne connaît pas ou...
Oui, il y en a plein. C'est vraiment un monde passionnant et fascinant. Et à partir du moment où on rentre dedans, on est émerveillé par tout ce qui a été fait pour garantir la fiabilité de l'encyclopédie et que tout fonctionne très bien. Ça impressionne généralement beaucoup les personnes qui viennent se former auprès de moi. Et il ne faut pas hésiter à venir à la rencontre de la communauté, soit avec des événements, il y en a très régulièrement. Par exemple, il y en a à Violette & Co. dans 15 jours à la librairie pour faire du Wikisource. Moi, je vais organiser des ateliers, notamment avec le Musée Cluny, donc le musée du Moyen-Âge sur la thématique des licornes. Voilà, donc il y a plein de choses qui vous attendent et Wikipédia et le monde Wikimédia n'attend que vous.
On a encore une ou deux minutes. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que votre métier de Wikimédienne en résidence à des enjeux différents, que vous soyez à Paris ou à votre collègue à Montpellier, ou au contraire, c'est juste exactement la même chose, juste il y a des spots différents?
C'est à chaque fois un contexte qui est différent, puisque chaque résidence est sur une thématique qui est généralement différente. Pour ma part, c'est la question de la lutte contre la désinformation, notamment avec Wikipédia. Pour mon collègue qui est au muséum, c'est bien évidemment mettre en valeur les contenus, notamment les collections qu'il y a. Il y a une extraordinaire collection de vélins, donc pour les mettre en libre accès pour que le grand public puisse y accéder. Et pour mon collègue de Montpellier, ça va être tout ce qui va être autour de la santé, le One Health.
Merci beaucoup Delphine Montagne d'être venue au studio de Radio Campus et merci beaucoup à Luna pour cette interview. On poursuit avec le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Un peu trop en avance. C'est Clotilde qui nous détaille tout ce qui se passe dans le monde. Salut Clotilde.
Bonjour Alice. La première actualité du jour en France concerne le projet de loi pour renforcer la protection des enfants. La ministre Aurore Berger, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a annoncé devant la délégation aux droits des femmes que des mesures liées aux violences sexuelles seront ajoutées à ce projet. Cela fait suite à la mort de Liana. Les différentes mesures viseraient à lutter contre la récidive en renforçant les sanctions pour les auteurs de viols sur mineurs ayant fait plusieurs victimes, ainsi que la dépénalisation de la non-présentation d'enfants et la suspension temporaire du droit de visite ou d'hébergement pendant une enquête pour les familles où il y a un risque. Le texte sera examiné à l'Assemblée à partir du 15 juillet. La seconde actualité en France est la grève de la SNCF de 24 heures ce mercredi 10 juin, organisée par 4 syndicats. En cause, les organisations dénoncent l'ouverture à la concurrence sur des lignes françaises et réclament la hausse des salaires pour faire face à l'inflation. Selon les syndicalistes, cette mise en concurrence entraîne des conséquences lourdes, transfert forcé du personnel, dégradation des conditions de travail, pression managériale. Ils évoquent également une montée de la souffrance au travail. La SNCF a recensé depuis le début d'année 13 suicides. À l'international, direction Belfast en Irlande du Nord, où des incendies de bus, de voitures et de quartiers habités par des personnes étrangères ont éclaté ce mardi 9 juin dans le cadre de manifestations ouvertement anti-immigration. Le mouvement a été amplifié par des figures de l'extrême droite comme Tommy Robinson, qui ont encouragé la mobilisation. Ces violences ont éclaté après une attaque au couteau, dont l'auteur serait une personne réfugiée selon le ministre de l'Intérieur. Cela a été utilisé comme un prétexte par ces groupes afin de cibler des personnes immigrées et justifier d'actes à caractère raciste. Ces événements s'inscrivent dans une vague de mobilisation contre les personnes immigrées en Irlande du Nord depuis 2 ans, ainsi que dans un contexte de montée mondiale des mouvements d'extrême droite et des discours racistes. Et pour terminer sur une note plus culturelle, ce samedi 13 juin à la Gaîté Lyrique, à Paris, accueillera un festival antiraciste. L'événement est porté par 3 médias indépendants et propose de raconter la France à travers le corps et les voix des personnes racisées, au programme stand-up, concerts, débats, ballroom et autres événements. L'entrée se fait uniquement sur réservation, directement sur le site de la Gaîté Lyrique.
Merci beaucoup Clotilde pour toutes ces infos. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes, juste après Au revoir mon amour de Léo Lonard.
Surtout pour les autres, je le fais pour nous, j'essaie de plus faire la faute. J'ai souvent perdu mes amours sous la lave du volcan qui dévale sur les flancs de montagne. Dans les vagues de l'océan emporté par le courant, j'ai perdu des bagues de fiançailles. Mais je me dis que je suis ni tout blanc ni tout gris. Cette douce mélancolie qui m'enlace dans mon lit comme une fille. Ce sentiment violent qui m'embrasse et qui me rend super triste, en même temps super vivant. Et je me dis que je suis ni tout blanc ni tout noir. La vérité est autre part. Dans ces moments qu'on oublie, mais je te au revoir, mon amour, au revoir. Mon amour, au revoir. Mon amour, au revoir. Au revoir, mon amour, au revoir. Mon amour, au revoir. Mon amour, au revoir. Au revoir, mon amour, au revoir. Mon amour, au revoir. Mon amour, au revoir. Au revoir, mon amour, au revoir.
C'était Au revoir mon amour de Léonard. Il est 19h35, vous êtes toujours à l'écoute de la matinale sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Tout de suite, on accueille Rachel au micro de Campus. Salut Rachel.
Bonjour Alice, bonjour à toutes et
ce
à tous.
Ce soir, tu nous racontes les enjeux autour de la présomption d'innocence, du principe de la précaution et du double standard victime-accusée dans les affaires de VSS.
Oui, hier soir, Sybille nous a parlé du traitement médiatique et politique de l'affaire Liana. J'aimerais aujourd'hui poursuivre en abordant le double standard des accusés de violences sexistes et sexuelles. Un deux poids deux mesures que subissent aussi les victimes. On entend souvent dans les médias deux principes de justice qui sont invoqués pour protéger les victimes et ou les accusés avant le verdict d'un procès. D'abord le principe de précaution qui permet de tenir à distance des accusés avant même le jugement. Comme c'est normalement désormais le cas des animateurs suspectés de violences sur enfants dans le périscolaire, écartés par précaution dès la première suspicion pour éviter de prendre le moindre risque. Mais le principe de précaution est souvent rejeté face à la présomption d'innocence, c'est-à-dire le fait qu'un accusé reste innocent jusqu'à ce qu'une décision juridique ne prouve le contraire. En garde à vue depuis lundi, suite à 12 plaintes pour viol et violences sexistes et sexuelles et une trentaine de témoignages, Patrick Bruel était jusqu'alors défendu corps et âme par ses fans et ceux qui doutent de sa culpabilité. On a laissé le suspect se faire adouber sur scène, en concert, au théâtre, puis on l'a pleuré sur les plateaux où les journalistes n'avaient pas honte de demander à nos élus et nos politiques s'il fallait ou non interdire sa tournée, annulée depuis, sans jamais trouver indécent de faire comme si les victimes n'existaient pas. Le sujet n'était plus quid des accusations de viol, mais que faire de sa carrière. Mais peut-on faire de Patrick une victime de ces accusations, alors même que depuis quelques jours, on s'indigne que Jérôme B., principal suspect dans l'enlèvement et le meurtre de Liana, n'ait pas été interrogé dans une précédente enquête toujours en cours pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Et on s'indigne aussi, à raison, en se demandant comment il a pu être en contact avec des enfants malgré les alertes. Comment la justice n'a pas réussi à protéger les victimes? Là, le deux poids deux mesures entre deux figures d'accusés, ceux qui sont protégés par leur statut, leur notoriété et leur classe, et les autres, qui dans le cadre des VSS sont encore loin d'être tous jugés. Sauf qu'en miroir, ça crée aussi un autre double standard qui classe les bonnes victimes et les autres. En ce moment, alors qu'on pleure Liana, le programme en top 2 sur Netflix France est une émission de foot où Paul de Saint-Cernin et ses amis humoristes taclent gratuitement Zaya. Donc, où l'on rit allégrément de l'hypersexualisation et la prostitution des mineurs, comme si de rien n'était. Pour celles et ceux qui ne savent pas, en 2010, Zaya Dehar a 16 ans et fait la une de tous les journaux suite à une enquête sur un réseau de prostitution qui révèle que plusieurs joueurs de l'équipe de France, dont Ribéry et Benzema, ont eu recours à ses services. Hypersexualisée dans les médias, elle n'était à l'époque pas présentée comme une victime mineure obligée de se prostituer. Ça choquait personne, c'était en 2010 avant MeToo, une autre époque me diriez-vous. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, elle ne l'est toujours pas. Parce qu'on continue de la moquer et de la déshumaniser, selon ses mots, dans ses émissions d'hommes faites par des hommes et pour des hommes. Sur son compte Instagram, elle se défend, ainsi que les autres victimes, je cite « Tant qu'on laissera le patriarcat décider quelle femme coche la case de la bonne victime ou pas, on restera bloqué ». Alors non, ça non plus, ce n'est pas un dysfonctionnement, comme veut nous le faire croire notre cher garde des Sceaux, qui lui-même a bénéficié de la présomption d'innocence dans le cadre d'une affaire de viol avant de bénéficier d'un non-lieu qui, je le rappelle également, n'est pas un acquittement, mais seulement l'arrêt de la procédure pénale sans jugement, faute de charges suffisantes. Voilà, alors non, ce n'est pas un dysfonctionnement, ce sont tristement des histoires banales et ordinaires. Maintenant, c'est tout un système qu'il faut repenser pour prendre au sérieux les victimes, les respecter et les protéger.
Merci beaucoup Rachel pour cette chronique.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Les étudiants peuvent-ils encore changer le monde et le rendre plus vert? Ce week-end, le RESES est réseau étudiant pour une société écologique et solidaire qui regroupe une centaine d'associations étudiantes écolo se réunit à Paris. 3 jours de rencontres et de conférences 100% gratuites. Et hasard du calendrier, la France sort tout juste d'un mois de mai exceptionnel par sa chaleur. 7 ans après les marches pour le climat, les jeunes peuvent-ils une nouvelle fois remettre l'urgence climatique au centre du débat? Pour répondre à cette question, Ryan, tu reçois le vice-président du RESES, Robin Cigaud. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Robin Cigaud.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté de venir au micro de Radio Campus Paris à 2 jours de votre rendez-vous annuel, le WESES, week-end pour une société écologique et solidaire. On va évidemment revenir dessus, mais d'abord, impossible de parler climat sans évoquer ces vagues de chaleur records qui ont frappé la France au mois de mai. Les phénomènes extrêmes deviennent la norme. S'est alarmé ce mercredi l'Observatoire climatique européen Copernicus. Comment est-ce que les universités, les établissements d'enseignement supérieur ont-ils vécu ces records de chaleur?
Pour les étudiants et les étudiantes, assez mal, évidemment. Ça dépend beaucoup des universités, mais beaucoup d'entre elles ne sont pas encore assez adaptées à la question. Et donc, forcément, une vague de chaleur, ça affecte à la fois la vie étudiante, les études. Donc, c'est des éléments qui ont un impact fort sur la vie des étudiants et des étudiantes. Donc, malheureusement...
Surtout que ces vagues de chaleur pourraient devenir de plus en plus fréquentes. Est-ce que les universités sont suffisamment préparées à ces températures ?
C'est très très dépendant des universités. Certaines oui, certaines d'autres non. Il y a beaucoup de campus qui sont malheureusement vieillissants, qui n'ont pas reçu les fonds nécessaires pour leur réaménagement, leur adaptation aux questions des changements climatiques. Alors que ce soit la question des canicules et des fortes chaleurs, mais aussi par exemple des inondations sur les campus qui sont sur des lieux inondés ou d'autres catastrophes climatiques qui pourraient arriver dans le futur.
Tous les trois ans, vous menez une grande consultation nationale des étudiants. La dernière date de 2023. Vous y révélez que 91% des étudiants estiment que leur campus n'agit pas suffisamment pour la transition écologique. Est-ce que les universités, les grandes écoles ont un train de retard ?
Vis-à-vis de la taille des enjeux, oui, évidemment. Mais je pense que peu d'organisations peuvent dire qu'elles ont un train d'avance vis-à-vis des enjeux de changement climatique et tous les enjeux qui sont autour, systémiques, et qui risquent d'avoir un impact. Encore une fois, ça dépend beaucoup du point qu'on regarde au sein des universités. Par exemple, sur la formation, un rapport de 2025 du ministère de la Transition écologique montrait que 35% des universités avaient intégré la formation aux enjeux écologiques dans leur cursus scolaire de manière obligatoire pour tous les étudiants et les étudiantes. Malheureusement, enfin voilà, ça en laisse quand même 65 qui ne l'ont pas encore fait. Et c'est aussi une question qui est assez inégale, par exemple sur l'accès à l'emploi, ou ces questions-là où on est toujours dans un système, mais dans des dynamiques qui sont assez verrouillées, qui empêchent aux étudiants et aux étudiantes d'être formés, d'être accompagnés pour s'adapter ensuite. Parce que c'est là le rôle de l'université, c'est d'accompagner dans le cursus à la fois scolaire et professionnel, les étudiants et les étudiantes, pour être à la fois dans un monde qui est adapté et qui en même temps a diminué l'impact qu'il pourrait avoir sur le climat pour la suite.
Et alors comment on explique ce manque de pointe sur les sujets écologiques ? Est-ce que c'est un manque de moyens ? Est-ce que c'est un manque de connaissances ?
C'est en partie les deux, c'est quelque chose qui est assez systémique. En fait, on cherche à... Si on voulait vraiment s'adapter complètement, il faudrait repenser la structure de la société. Et c'est quelque chose qui est difficile à faire. Il y a des tentatives. On peut penser au campus de la transition, par exemple, qui essaye justement d'apporter des données, des informations vis-à-vis de cette adaptation-là. Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui a été pris en compte de manière vraiment systématique partout dans les universités. Et la situation budgétaire actuelle de l'enseignement supérieur et de la recherche, évidemment, n'aide pas. Quand des universités sont en déficit de plusieurs millions, c'est difficile de faire passer les enjeux d'écologie en premier.
Dans cette étude, justement, vous révélez que pour plus de la moitié des étudiants, 56%, la contrainte budgétaire est le principal frein au changement de leurs habitudes de consommation. Donc en clair, par manque d'argent, plus difficile d'adopter un comportement plus éco-responsable, de consommer vert. Est-ce que, effectivement, vous aussi, vous le constatez, quand on est plus précaire, quand on rencontre plus de difficultés économiques, on est moins vertueux dans ses habitudes ?
Oui et non. Oui, par une sobriété forcée, qui n'est honnêtement pas la bonne, c'est pas la bonne solution qu'il faudra prendre. Et non, aussi parce qu'on a justement des habitudes de consommation qui sont obligatoires quand on n'a pas de budget. On ne va pas pouvoir permettre de prendre la consommation bio locale qui est augmentée en termes de prix quand on l'achète à Biocoop. Ou qu'on n'a pas accès à des circuits qui sont plus courts, qui sont plus directs, et sur lesquels on aurait accès typiquement à une alimentation plus saine, durable et accessible. C'est des initiatives qui malheureusement manquent en visibilité, et donc forcément les méthodes de consommation et les modes de consommation des jeunes précaires, oui, en pâtissent.
Et pour celles et ceux, étudiants ou non d'ailleurs, qui nous écoutent, est-ce qu'avec peu de moyens, on peut faire des gestes pour la planète, par exemple lesquels ?
Ouais, carrément. Le geste qui a le plus d'impact, c'est de monter des initiatives qui permettent justement de rendre plus accessibles ces questions de consommation. On peut penser à tout ce qui est création de paniers solidaires sur les campus, permettre l'accès du coup à une alimentation durable, les colocations étudiantes pour avoir accès à un logement en moins cher. Il y a énormément de mesures comme ça qui peuvent être réalisées collectivement pour avoir un impact sur ces modes de consommation, à la fois d'une manière à ce qu'ils soient durables et accessibles en même temps pour tous et toutes.
Alors venons-en au WESES, le week-end pour une société écologique et solidaire que vous organisez ce week-end. Les membres des 170 associations qui composent votre réseau y sont bien sûr conviés, ainsi que toutes celles et ceux qui le veulent, et c'est gratuit, je précise. Au programme, pas mal de conférences avec notamment le chercheur en neurosciences Albert Moukébert ou encore l'écrivaine Flore Vasseur. Que viennent chercher les étudiants qui s'inscrivent? Et peut-être dites-nous, pour les étudiants qui nous écoutent et qui ne connaissent ni le WESES ni le WESES, pourquoi ils devraient s'inscrire?
Alors, il y a beaucoup d'éléments, parce que le week-end est heureusement assez fourni. Un des premiers éléments à apporter, c'est sur la question de l'insertion professionnelle engagée, où on a tout un programme le vendredi qui est dédié uniquement à ça, avec un forum d'insertion professionnelle engagée, des talks qui sont dédiés au fait de découvrir des acteurs et des actrices qui ont réussi à s'engager de manière professionnelle pour avoir des clés d'engagement pour les étudiants et les étudiantes. C'est aussi un moyen de se former, de rencontrer d'autres étudiants et étudiantes engagés, de voir que les initiatives existent partout en France et de donc se donner un grand coup de motivation pour la suite, une fois qu'elles repartent sur leur campus, dans leur territoire, après le week-end, de découvrir en fait justement toute la diversité des actions qui sont possibles et donc tout ce qui est aussi possible pour elles et eux à mettre en place un peu partout.
Et c'est quoi l'événement qui vous enthousiasme le plus dans la programmation?
Je pense que la plénière de Albert Moukaïber, qui justement explique un peu toutes ces questions de comment est-ce qu'on se motive vraiment à mettre en place les choses, à pousser, qui arrive du coup le vendredi soir, à partir de 17h, pour celles et ceux qui voudraient nous rejoindre, c'est quelque chose qui risque d'être franchement assez cool. J'ai un peu hâte.
Cette année, votre mot d'ordre, c'est « on change de modèle pour changer de monde », voilà qui est ambitieux. Pour nos auditeurs au WESES, vous dites « apartisan mais pas apolitique ». La présidentielle, c'est dans un an. Est-ce qu'on parle assez du climat?
Non. Enfin, soyons honnêtes, vu l'ampleur de l'enjeu qu'il y a autour du climat, on n'en parle clairement pas assez. Heureusement, on parle d'autres causes qui, de manière systémique, vont avoir un impact sur le climat. Un impact positif, mais clairement, c'est pas le débat public n'est pas encore assez ouvert sur la question.
Alors, comment on explique que, alors qu'il y a une urgence climatique, on nous alerte sur les conséquences irrémédiables du réchauffement climatique, que le climat soit si peu présent?
C'est à la fois médiatique, c'est peut-être aussi parce que la façon dont on parle aujourd'hui du climat a changé. C'est moins quelque chose qui est devenu quelque chose de médiatique, c'est plus devenu quelque chose de l'action. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de collectifs qui sont montés pour mettre en place des choses vis-à-vis du climat, rendre les modes de consommation plus responsables. C'est peut-être redevenu quelque chose d'un peu plus militant aussi par rapport au début, ce qui forcément donne moins de visibilité sur les médias très classiques, qui donnent plus la main sur les sujets d'actualité justement.
Et aussi, comment ne pas évoquer les fake news sur le climat quand on parle du climat? 665 fausses infos relayées dans les médias audiovisuels en 2025, selon une étude de l'Observatoire des médias sur l'écologie. Vous, quel regard est-ce que vous portez sur la désinformation climatique?
C'est une erreur. Enfin, comment est-ce qu'on pourrait dire ça autrement? Ça ne devrait pas exister. Malheureusement, on ne peut pas prendre de bonnes décisions quand on n'a pas les bonnes informations. Et donc, si on veut réussir à changer de modèle pour changer le monde, justement, il faut qu'on puisse le faire sur des bases qui soient solides et concrètes. Et donc, ce genre d'erreur-là ou de désinformation-là est malheureusement très contre-productive.
Et comment est-ce que vous comptez justement remettre ces sujets au cœur du débat d'ici cette échéance qui est très importante, la présidentielle ?
Via beaucoup d'actions de plaidoyer, il y a énormément de campagnes qui se poussent déjà avec des collectifs de jeunesse, des collectifs sur les questions de climat qui sont déjà en cours. On a déjà commencé en fait toutes les discussions parce qu'effectivement c'est un sujet qui est trop important pour qu'on l'ignore. Et attendez-vous à voir quelques petits trucs passer sur les réseaux sociaux assez rapidement.
Bon, le teaser est lancé. Une dernière question, est-ce que généralement quand on est jeune et étudiant sur les campus, est-ce qu'on est suffisamment informé et sensibilisé au dérèglement climatique?
Ça dépend du niveau d'études, ça dépend aussi beaucoup de la proactivité qu'on a pu prendre vis-à-vis de ces enjeux-là, malheureusement, parce qu'aujourd'hui il y a une partie de ces questions où, sur lesquelles il faut être proactif et proactive. Former de plus en plus. Mais entre la formation et la sensibilisation qu'on peut avoir sur le sujet, et à quel point on peut avoir une sensibilité qui nous pousse à agir, ça c'est une autre question.
Ça mobilise encore le climat? On a vu les marches il y a 7 ans, les marches pour le climat, beaucoup de mobilisation. Est-ce que c'est toujours un sujet qui mobilise les foules dans les universités?
Oui, ça mobilise encore plus de la même manière. C'est le point, c'est que c'est moins une mobilisation dans la rue qui va amener à faire des manifestations, tout ce genre d'actions-là. Par contre, c'est une mobilisation qui est beaucoup plus dans l'action, dans la création d'initiatives, dans l'adaptation des formats qui sont déjà existants.
Merci beaucoup Robin Sigaud. Je rappelle le WESES, votre événement annuel ce week-end 12, 13, 14 juin à l'Université Paris-Cité au campus Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement de Paris.
Merci à vous.
Merci beaucoup à tous les deux pour nous avoir partagé cet événement et vos actions au sein du réseau étudiant. Dernière pause musicale avec Vilaine Garçon de Chéri. A tout de suite. Retour sur le 93.9 FM, on vient d'écouter Vilaine Garçon de Chéri.
La matinale de 19h.
On termine cette matinale justement avec Fabien et sa chronique libre. Salut Fabien.
Salut, ça va bien ?
Oui, ça va. Alors là, tu vas nous plonger dans plein mois d'octobre, Halloween, l'horreur, avec un escape game et un labyrinthe un peu spécial.
Oui, tout à fait. C'est The Dark Dream Paris. C'est un spectacle immersif d'horreur qui est à Paris, donc. C'est une aventure interactive qui propose deux types d'attractions, un labyrinthe, comme tu l'as dit, et un escape game. Donc, on va commencer par le labyrinthe. On entre dans un labyrinthe immersif de 1200 mètres carrés dans le noir complet. C'est dans une maison hantée à Paris. Il y a de nombreux comédiens ainsi que des effets spéciaux et des décors spectaculaires qui vous attendent dans cette aventure. Il y a deux histoires différentes. La première, c'est Parasomnia. Donc le thème, c'est quand la parasomnie dévore vos nuits, il ne reste qu'une chose à faire, hurler. Pour offrir à Clarisse un semblant de repos, un gigantesque labyrinthe a été érigé. Une seule mission, perdre à jamais ceux qui la hantent. Car jusqu'à présent, ses cauchemars ont triomphé. Et donc, oserez-vous entrer dans le labyrinthe des cauchemars de Clarisse et peut-être y retrouver les vôtres ? Donc le vendredi, il y a une version hardcore, donc c'est le Dark Friday, Parasomnia version hardcore. Donc là, c'est si votre corps est recouvert de sang, soyez soulagé tant qu'il ne s'agit pas du vôtre. Chaque vendredi de l'année, c'est sympa hein, comme ambiance, hein. Chaque vendredi de l'année, The Dark Dream Paris vous ouvre les portes de son parcours hardcore. C'est une expérience qui est réservée aux plus audacieux, à ceux qui recherchent l'adrénaline brute et qui n'ont pas peur d'affronter l'obscurité sous sa forme la plus terrifiante. Peut-être croiserez-vous un habitant solitaire armé d'une tronçonneuse, prêt à prélever un souvenir de votre passage, ou bien sentirez-vous un frisson dans votre dos en levant les yeux sur les murs, quelqu'un vous guette, prêt à bondir. C'est de 2 à 12 personnes, ça dure 60 minutes, c'est un labyrinthe qui fait quand même 1200 mètres carrés, donc c'est très très grand. Il vaut mieux avoir une tenue salissable, d'après ce qu'ils disent, parce que bon, on risque d'en ressortir pas vraiment indemne, et ça coûte 55€ par joueur. Il y a aussi un escape game Catacombe Nightmare. C'est un escape game insolite qui nous plonge littéralement sous terre dans une reconstitution des catacombes de Paris. Ça me plaît bien aussi. Donc on commence dans un ascenseur unique qui est spécialement conçu pour ce jeu et on découvre une reconstitution réaliste d'un réseau souterrain qui est digne des véritables catacombes de Paris. Les murs sont tapissés de crânes, l'éclairage est faible et chaque pas résonne comme une menace. Le décor est si crédible qu'on en oublie qu'il s'agit d'un jeu. Donc pendant 60 minutes, on explore les lieux, on résout les énigmes et on doit trouver la sortie. Le jeu accueille de 2 à 6 joueurs dès 9 ans et c'est là par contre 45€ par personne. Aucune tenue spécifique n'est requise, mais mieux vaut venir à l'aise et l'estomac plein. Donc ce sont quand même des expériences qui sont dignes d'un film d'horreur. Il faut avoir le cœur bien accroché et évidemment aimer ce style. Vous allez être dans des situations terrifiantes, le tout dans une ambiance dérangeante. Et est-ce que vous en sortirez vivant ? On n'en sait rien.
Merci.
Attends, The Dark Dream Paris, c'est au 63 rue de la Fraternité à Montreuil. Le métro, c'est la ligne 9. La station, c'est Robespierre. Et si ça vous intéresse, vous retrouverez toutes les infos et les tarifs sur leur site thedarkdreamparis.com.
Et voilà, c'est dit. J'imagine que toi, tu vas tester tout ça.
Oui. Il y a des chances.
Ça sera sans moi. Moi, je déteste les horreurs. Donc...
Ah bah, on ira ensemble alors.
Tout à fait. Et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci à Clotilde pour le Flash Info, Rachel pour la chronique actu, Ryan pour le Zoom et Fabien pour la chronique libre. C'était Joey à la Réal pendant toute l'émission. Merci à toi. Quant à moi, je m'appelle Alice et je vous ai présenté cette matinale du mercredi 10 juin. À bientôt sur le 93.9 FM.